Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Méga, dans notre émission Underscore, et oui je reviens et je me glisse, pour vous dire que c'est ainsi que la ski sur les pistes de neige.
Bonjour Human, bonjour Doudou, bonjour ma belle.
Bonjour Cécile, et bonjour Lisa.
Et oui, elle est reviendue, amis auditeurs. Et oui, elle devait en avoir assez des radios non libres, et elle s'est dit finalement, j'étais pas si mal, allez je reviens, puis voilà. Elle fait son as en faisant du ski, mais que fait la police?
Un sujet qui a du caractère.
C'est ça, un sujet qui a du caractère. Et ça sera le sujet du jour que MMU nous a concocté avec la ski.
Voilà, donc sur les codages de caractère. On passe à l'actu?
Oui, on passe à l'actu.
Et c'est les fails du mois. Du coup, j'ai mis un jingle ailleurs, mais c'est pas grave.
Tesla admet enfin qu'il ne sera, leur sera probablement jamais possible de proposer une voiture complètement autonome. Ah bah zut alors.
Patreon vire 36 employés tout en faisant une levée de fonds. Pas sûr que ça sente très bon.
Une première vente aux enchères officielles de jeux vidéo et consoles rétro au Mans. Enfin sur internet, non sérieux, ça va faire flamber les prix alors qu'ils sont déjà délirants sur eBay.
Une backdoor dans le malware Royal Road qui vise les sous-marins nucléaires russes.
Une nouvelle classe d'attaque spéculative basée sur les fuites de cache de micro-opérations sur les processeurs Intel et AMD qui rend inopérants les contre-mesures pour Spectre.
Pardon, l'ex-vice-président IT Operation chez Netflix condamné pour 28 cas de fraude et de pratique de blanchiment.
Le magasin web Ball.com escroqué de 750 000 euros. Les auteurs ont réussi à se faire passer pour Brabantia, un fournisseur, et indiqué que le numéro de compte de ce dernier avait changé. Un classique d'ingénierie sociale.
Amazon, des ventes records et zéro impôt sur les sociétés en Europe en 2020.
Encore Amazon gagne contre la Commission européenne et n'aura pas à payer les 250 millions d'arriérés d'impôts que celui-ci réclamait.
Des
collaborateurs d'Amazon utilisent des données de vendeurs sur leur plateforme afin de proposer eux-mêmes des produits concurrents. Amazon déclare qu'elle ne l'autorise pas, mais selon un rapport interne, cela fait longtemps déjà que l'entreprise est au courant.
IT Pie, après avoir bien torpillé la neutralité du net à la FCC et privé les Américains d'un accès convenable à Internet juste avant qu'une pandémie qui les a obligés à travailler à distance, se trouve un job confortable dans une société de capital et investissement.
Oh là là. Visiblement, les deux camps ont triché pour les contributions sur la neutralité du net à la FCC. 82% d'entre elles étaient fausses. On ne sait par contre pas combien venaient de l'appel de John Oliver, qui avait fait une vidéo super drôle sur le sujet.
Les devs d'Audacity ont pensé à utiliser Google Analytics pour faire de la télémétrie. Ça ne plaît pas à tout le monde. Heureusement qu'ils font marche arrière, ce sera une option opt-in et n'utilisera pas le code de Google.
Vulnérabilité d'exécution de code arbitraire dans un paquet de Node.js qui s'appelle Underscore, c'est ballot.
Apple vient de notifier Alexandra Elbakian, qui a créé SciHub, que le FBI lui avait demandé l'accès à son compte en 2019.
Apple est poursuivi en Grande-Bretagne pour avoir prétendument surfacturé les consommateurs pour les applications achetées. Les plaignants trouvent que la commission de 30% que les développeurs d'applications doivent verser à l'entreprise américaine est excessive et illégale.
La NSA et d'autres agences se mettent en garde contre les faiblesses des réseaux 5G.
Une nouvelle faille dans le protocole Wi-Fi, elle est vraiment dangereuse puisqu'elle a un nom et un logo, Fragatax.
L'Allemagne interdit à Facebook de récupérer les données de WhatsApp.
La tentative de Facebook de bloquer l'enquête de la CNIL irlandaise a échoué, rejetée par la Cour supérieure de justice du pays.
Amende de 525 000 euros pour le site localfamily.com qui publie des adresses et des numéros de téléphone de personnes souvent à leur insu. Il est difficile d'obtenir la suppression de ces informations car ce site de recherche familiale n'a pas de représentant dans l'UE.
Un catalogue de logiciels libres, pas libre. En effet, la direction interministérielle du numérique a mis en place un catalogue à destination des administrations, où malheureusement aucune vérification n'est faite des propositions.
Victime d'un ransomware, le gestionnaire d'un pipeline de la côte est aux US, a dû se baser sur ce propre backup pour restaurer son fonctionnement. Malgré le paiement de 5 millions de dollars en bitcoin, car l'outil de déchiffrement fourni par les pirates était trop lent. Mauvaise presse pour les méchants. Ceci dit, le gang prétend avoir perdu le contrôle de ses serveurs et c'est sous un jour que Joe Biden ait annoncé un plan pour les neutraliser. Du coup, c'est la faute à Biden.
Bonne question. Pour espionner les Ouïghours, la Chine aurait organisé une compétition de hacking avec un prix de 200 000 dollars pour trouver une faille dans les iPhones et aurait bien gardé les informations pour eux-mêmes.
Microsoft s'engage à laisser les données des clients européens en Europe. Qui les croit ?
Plus de 9000 smartphones ont été infectés par un virus transmis via de faux SMS prétendument du groupe belge Bpost, invitant l'utilisateur à installer une application.
Il est possible de générer une empreinte numérique dans les navigateurs web, y compris le Tor browser, en listant les applications installées.
La CNIL, impuissante face aux boîtes noires. Non seulement elle n'a pas accès aux algorithmes qui seront pérennisés par la prochaine loi sur le terrorisme, mais de toute façon, son avis n'est même pas écouté par le gouvernement. L'ARCEP vient d'ailleurs de publier son propre avis, également très très critique.
Le gouvernement veut enrôler les GAFAM dans la lutte contre les sites miroirs de contenu piraté. Sinon, un jour, on aura droit à une évaluation de DADVSI. Non, je ne parle pas de Adopi, mais bien du truc d'avant. Donc, une évaluation devrait être faite, qu'on attend toujours.
Une mise à jour de VLC pour corriger les mises à jour automatiques sous Windows qui étaient téléchargées mais pas installées. Il faut donc lancer manuellement l'installateur après son téléchargement.
À Montpellier, une bande exploite discrètement les cartes sans contact des passagers pour les voler.
Le data center d'EVH à Roubaix a quelques manquements aux normes de sécurité incendie, d'après un rapport du bureau Veritas. Oups.
Trois cadres d'Amazon confient avoir embauché des gens pour les virer, à seule fin d'atteindre leur quota de salariés à éjecter.
L'assureur AXA, victime d'un ransomware, après avoir indiqué qu'il ne couvrirait plus les paiements des rançons de ses assurés.
Les pharmaciens transmettaient des données personnelles à une entreprise sans nous demander, avec la bénédiction de la CNIL. À revoir dans Cache Investigation. La CNIL, depuis, a réagi et promet des contrôles.
Les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp s'appliquent hors de l'UE et bientôt chez nous aussi.
Et enfin, encore un nouveau texte contre le piratage au Parlement, avec la proposition d'une amende de 350 euros. Pour éviter des poursuites.
Bah voyons.
Eh bien, c'était bien long, hein.
Ouais, ah bah de plus en plus de failles, ça n'arrête pas.
Tout de suite, on écoute Insert No Coins de Razor No Sound pour écouter ensuite le sujet, le codage de caractères.
Thank you. Un peu abrupte la fin. Mais c'est sympa.
Ouais, et c'était Insert No Coins, une musique issue de la démo de Razor 911, qui fait toujours partie des grands classiques de la démo scène.
Et ouais, et ben le sujet.
Ah, le sujet, alors tu vas être tout chousse alors cette semaine.
Oui, ASCII, je chousse mais. Alors je vais vous parler d'abord d'avant l'ASCII, parce qu'il y a eu l'avant et l'après. Et oui, je souhaitais vous parler un peu des codages des caractères, parce qu'il y a pas mal de choses à savoir là-dessus, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait autrement.
Ah oui, et c'est quand ma page internet, elle s'affiche, et puis il y a des caractères tout bizarres, c'est ça?
Eh bien justement, c'est un peu à cause de ça, en effet.
Ah.
C'est parce que le codage des caractères n'est pas spécifié sur le serveur, ou alors il est mal spécifié, et du coup le navigateur, il croit que c'est un certain codage, et du coup il se trompe.
Donc mon ordinateur, il ne m'insulte pas en fait.
Non, il fait ce qu'on lui demande, c'est juste qu'on ne lui demande pas correctement.
D'accord.
Voilà, voilà. Donc ça permet d'expliquer ce genre de trucs. Alors avant l'ASCII, parce que avant de chausser les skis, pour rappel, depuis Ada Lovelace, on sait qu'un ordinateur peut manipuler autre chose que des nombres, à condition que l'on transcrive ces autres choses en nombres avant. L'unité la plus pratique au début de la micro-informatique était l'octet, un paquet de 8 bits pouvant chacun être un 1 ou un 0. On peut ainsi avoir une valeur de 0 à 255. Si on décide que chaque lettre a une de ces valeurs, on peut ainsi coder une chaîne de caractères comme une suite d'octets. Alors c'est bon, on a 28 lettres dans l'alphabet, plus 10 chiffres, il reste largement de la place pour la ponctuation, non? Alors oui et non. Alors on a déjà les majuscules, hein, donc ça fait 26 lettres de plus, parce que si on dit que c'est pas les mêmes. Et en fait, les premiers micro-ordinateurs ne géraient pas tous les minuscules. Il y en a beaucoup qui n'avaient que les majuscules, ou alors c'était en option, il fallait une carte en plus, etc. Et puis, il faut encore décider dans quel ordre on met tout ça. Et tout le monde n'était pas d'accord. Déjà, le début, voilà, chacun fait plus ou moins tout seul dans son coin comme il a voulu. Par exemple, chez IBM, ils ont pondu le BCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Notez que le nom indique déjà que c'est une extension d'un codage existant, utilisé pour les cartes perforées. Donc ça remonte, hein. Et il existait déjà 6 variantes, plus ou moins compatibles entre elles. Donc déjà, c'est mal parti. Commodore a aussi sorti son propre codage pour le PET. Avant le VIC-20, le Commodore 64, il y a eu le PET. Et ils ont appelé ça le PET-SKI. Voilà. Et puis, il y avait tout plein d'autres choses. Il y a notamment les services dérivés du Videotex, qui aussi ont leur propre encodage. Par exemple, le CEPT2 pour le Minitel. Parce qu'il y avait, ils se sont mis ensemble, les pays, à l'époque, pour faire une norme, mais chacun a fait la sienne. Il y avait le CEPT1 en Grande-Bretagne, le 2 pour le français, etc. C'était assez drôle. Et puis, l'ASCII est apparu, également dans les années 1960, créé par l'ancêtre de l'ANSI. Donc l'ANSI, c'est un comité de normalisation. Et en fait, le standard ne définit que les 128 premiers caractères. Et souvent, on l'appelle ASCII 7, puisque 7 bits suffisent à le coder. Oui, Roudou?
Alors, 7 bits suffisent à le coder, mais surtout, on gardait le 8e bit pour l'imprimante, et ça devait faire la parité lors de la transmission à l'imprimante.
Alors effectivement, sur certains liens séries, par exemple, le 8e bit était utilisé pour la parité, par exemple. Ça pouvait arriver, ouais. Et alors, dans ces 128 caractères, il y a des caractères de contrôle, donc qui ne sont pas imprimables, mais qui servent à contrôler l'écran ou l'imprimante, justement. Donc retour à la ligne, tabulation, etc.
Ah oui, ça chiffres. M'est déjà arrivé, ça, oui, quand j'imprimais des feuilles, et ça me sortait des caractères tout bizarres, tout en haut.
Oui, parce qu'elle a mal interprété ces caractères-là. Puis il y avait les chiffres, les caractères latins, bref, tout ce qu'il faut pour l'anglais, quoi. Hein, et tout le monde parle anglais, évidemment. C'est logique.
Jude.
Et, sauf que lorsqu'on veut utiliser un ordinateur dans une autre langue, ce qui a fini par arriver quand même, il devient nécessaire de coder les autres caractères. Pour les langues latines comme le français, on peut encore faire sans accent. C'est pas très joli, puis des fois il y a des confusions. Mais pour le cyrillique ou les idéogrammes, c'est plus compliqué. Pour les langues européennes, des extensions spécifiques à l'ASCII 7 ont été créées, avec plusieurs dénominations, il y a des variantes, les histoires de pages de code sous MS-DOS, enfin il y a plusieurs noms sous Windows aussi. Et ces extensions utilisaient les 128 autres valeurs, donc avec le dernier bit A1. L'Atari ST notamment avait aussi sa propre variante de l'ASCII, avec des caractères grecs notamment. L'inconvénient étant qu'un texte rédigé dans une de ces pages de code ne peut pas être exprimé dans un autre, puisqu'en fait il y a la moitié des caractères qui sont pas les mêmes, quoi.
Il faut des tables de correspondance alors ?
Non, parce qu'en fait, ils sont pas exprimables dans l'autre page de code. Ah. Les seuls qui sont communs, en fait, c'est les ASCII 7, donc les lettres latines sans accent. Et puis en Asie, où on a de nombreuses langues qui utilisent des idéogrammes qui sont beaucoup plus nombreux, bah, le nombre de caractères est du coup bien plus important, et ça rentre pas sur un octet, ça c'est sûr. Il y a eu plusieurs codages qui ont été créés, comme le ShiftJS, qui utilise un nombre d'octets variable, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un octet égal un caractère, eh ben en fait ça peut être 1, 2 ou 3 ou un peu plus. Et puis il y en a qui se sont dit quand même il faudrait un standard pour tous les unir et voilà, comme un anneau quoi. Et donc le standard Unicode a été construit pour reprendre l'ASCII et toutes ces pages de code existantes en élargissant les valeurs possibles. En effet, il n'est pas limité à 256 caractères. S'il a commencé avec 65 536 possibilités sur 16 bits, en fait, ils ont vite rajouté d'autres plans en disant il y a d'autres possibilités, donc plusieurs fois 65 000 caractères. Et la version 13 publiée l'an dernier, on en a déjà parlé, en est à 143 859 caractères.
Ça commence à faire un paquet de choses. Hein.
Ouais. Même si effectivement certains emplacements sont réservés, enfin sont vides parce qu'ils sont réservés. Et ils comprennent donc 150 écritures différentes, ainsi que des symboles pour de nombreux domaines, du dessin industriel à la musique, il y a des notations musicales, mathématiques, entre autres, et puis plein de flèches, de trucs absolument inutiles, et bien sûr un nombre toujours croissant d'émojis, donc encore plus inutiles, mais toujours pas le Klingon. Bon, ça... Il existe cependant une partie usage privé qui peut être utilisée différemment par chaque police de caractère. C'est par exemple ce qu'Apple utilise pour caser son logo. Il y a un registre alternatif qui existe aussi pour cette partie qui est gérée indépendamment d'Unicode, qui inclut le Klingon, parce que quand même c'est important. Et jusqu'ici, j'ai pas fait la différence entre le jeu de caractère, qu'on appelle charset en anglais, et codage, encoding en anglais. Le jeu de caractère, c'est la liste des caractères utilisables avec leur numéro d'ordre. Donc le premier c'est A, etc. C'est pas exactement ça, mais voilà, c'est l'idée. C'est ce que définit Unicode, par exemple. Alors que le codage, c'est la façon de stocker ceci en mémoire. Et pour Unicode, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont une taille fixe, comme UCS2, qui utilise 16 bits par caractère, ou UCS4, 32 bits, donc 4 octets. Malheureusement, même 4 octets, ça n'est plus suffisant maintenant pour contenir tout Unicode. Donc on est passé sur d'autres choses. Et puis en plus, quand on utilise plusieurs octets, bah, y a plusieurs façons de les ranger, ces octets eux-mêmes. Parce qu'on peut mettre le poids fort d'abord ou en dernier, etc. On parle d'Indian en anglais, ou de bouddhisme au Québec. Et il y a donc un caractère spécial, le byte order mark, qui sert à détecter en fait l'ordre des octets, pour savoir après dans quel ordre il faut lire les octets pour les caractères suivants. Déjà, c'est un peu tordu. Et ensuite, il y a une autre famille de codage, donc Unicode Transformation Format, qui lui utilise une longueur variable de mots, soit des octets pour UTF-8, c'est sur 8 bits, ou plus large, comme UTF-16, qui est sur 16 bits. Donc c'est un peu comme UCS2 que j'ai déjà mentionné, sauf que UCS2 était prévu pour être fixe sur 16 bits. Et là on dit, ça peut être 16 bits, ou 2 fois 16 bits, ou un peu plus. Et UTF-8, pour l'anecdote, il nous vient de Plan 9, Plan 9, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. On peut noter que Windows NT en interne utilise UCS2, puis UTF-16 depuis Windows 2000, alors que la plupart des autres OS utilisent UTF-8. Et Microsoft n'a que très récemment recommandé d'utiliser UTF-8 plutôt.
Enfin,
ils s'y mettent. Donc chaque caractère peut ainsi faire 1, 2, 3, voire beaucoup plus d'octets, jusqu'à 5, 6, en fonction de son numéro Unicode. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu la prise de tête quand on veut compter le nombre de caractères dans une chaîne, puisque du coup, suffit pas de compter le nombre d'octets, c'est pas juste la taille de la chaîne. Un autre détail, il existe plusieurs façons de noter les caractères accentués. En effet, par exemple, le E accent aigu, nous on dit E accent aigu, et ben, il peut être soit exprimé par le caractère U plus 00E9, qui est en fait le E accent aigu, soit la suite U plus 0065, c'est-à-dire la lettre E, et U plus 0301, qui est en fait l'accent aigu tout seul, qui se combine avec la lettre précédente, le caractère E. Et donc on a soit le E accent aigu, soit le E accent aigu. Et c'est ça la différence entre macOS, qui utilise le format NFD, c'est-à-dire décomposé, avec le E et puis l'accent après, et tout le reste du monde qui utilise le format NFC, qui dit c'est le caractère E accent aigu. Donc c'est pour ça que des fois, entre les transferts de fichiers, entre macOS et Linux ou Windows, des fois il y a des petits soucis.
Et oui, parce que vos noms de fichiers, après, ils se transforment.
Et ouais. Bref, toutes ces différences, malgré un même standard, expliquent que parfois on a du mal à lire un fichier texte et qu'il faut parfois deviner le jeu de caractères, le codage ou d'autres paramètres. Et je vous ai pas tout dit, hein. Mais enfin, non. C'était déjà pas mal.
Ouais.
J'espère que je vous ai pas perdu.
Non, merci bien, MMMN. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais au moins ça met en lumière des choses que tout le monde n'a pas forcément conscience et qui se retrouve face à des problèmes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et voilà, oui. Ça peut être une des réponses sur lesquelles vous êtes tombé.
Et bien sûr, il y aura plein de liens, comme d'habitude, sur AAA.fr.
On fait une petite pause pour après se retrouver pour l'agenda.
À tout de suite.
À tout de suite. Generation de Hook to Me. Petite clin d'œil à la musique des démos Amiga.
Et on passe à l'agenda ?
Passons à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
Libre Graphic Meeting. Le Libre Graphic Meeting est une réunion annuelle sur les logiciels libres. Organisé chaque année depuis 2006, le Libre Graphic Meeting vise à attirer les développeurs, les artistes et les professionnels qui utilisent et améliorent les applications graphiques de logiciels libres. LGM favorise les discussions entre développeurs de logiciels, les utilisateurs et le grand croisement de ces deux catégories. Contrairement à de nombreux événements consacrés aux logiciels libres, LGM a toujours eu une forte orientation artistique avec des designers et des artistes présentant leur travail aux côtés du travail des développeurs de logiciels, et je m'insurge contre cette news car les développeurs sont aussi des artistes.
Exactement.
Ce sera du 27 au 30 mai en ligne et à distance.
Matt Bell, tu as coupé ton micro. Bon ben je l'ai fait alors. Cédille Tour, le Royan. Donc Cédille vous propose de redécouvrir les tiers-lieux du Royan. Trois visites de lieux, présentation des activités et échanges avec les équipes de Le Chalutier, Le Hublot et la Place des Possibles. C'est non sympa hein. Port du masque obligatoire, donc c'est vendredi 28 mai de 9h30 à 13h30 dans les différents lieux.
Webinaire sexe et genre numérique compté avec les femmes. Dans cette intervention, Anne-Marie Kermarek, professeure en informatique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, dressera un état des lieux et des amours compliqués entre le numérique et les femmes, du manque de féminisation de ce secteur si prometteur, mettra en lumière quelques pionnières du domaine et proposera quelques pistes pour accélérer le changement. C'est le 28 mai à 14h à 16h30, c'est gratuit et en ligne.
Et enfin, Assemblée Générale Annuelle 2021 de Facile, l'AG de Facile, l'association pour l'appropriation collective de l'informatique libre. Ce sera en ligne le 29 mai de 10h à 12h, heure de Montréal. Donc pour ajouter 5h, je crois.
Il faut retirer 6h.
Du bien et des liens ?
Mais oui. Qu'est-ce qu'on a
Alors, on a AskiFlow pour faire de l'art ASCII en ligne.
Le projet du mois chez OpenStreetMap, cartographier les labos d'analyse médicale. C'est d'autant plus utile qu'en ce moment avec le test du Covid.
Un site géré par l'INSEE vous permet de vérifier votre situation pour les prochaines élections.
Vous voulez découvrir facilement de la musique libre sympa ? Simplement abonnez-vous au flux RSS du site auboutdufil.com. Chaque lundi, Eric ou Alice font découvrir une nouvelle pépite musicale libre. Il y a aussi un flux RSS pour vos lecteurs de podcasts.
Astrologique, jingle.
Astrologique. Season Min, les loups d'Alas Proxipas, mais oui, je sais.
Elle sait ce que c'est qu'un Proxipas.
Elle sait ce que c'est un Proxipas.
Makounet, je suis sans voix, ou plutôt je suis iPhone.
Technophile, l'UTF-8, c'est mieux à ce qui paraît.
Musicien, c'est trop tendu les cordes, donne-moi un peu de Moog.
Électronicien, tous ces transistors, c'est la fête à la maison.
Youtubeur, c'est filmé en bullet time ? Non, en bullet time.
Waouh ! Et évidemment, hein, c'était Makounet, je suis sans voix, ou plutôt je suis à iPhone. iPhone.
iPhone, ah.
Fallait l'accent.
Eh oui.
Ça ring, ring.
iPhone.
Ouais. Néanmoins, merci les auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. J'espère qu'on a pu mettre en lumière quelques bugs que vous avez rencontrés dans votre vie informatique. Néanmoins, on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio Méga à 12h10 et en podcast sur www.fr et aussi sur iTunes. Et puis, pour un nouveau sujet, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous pensez de la 5G ?
J'allais te le proposer.
mais je ne sais pas, je ne suis pas encore vaccinée. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien.
Bye.
Salut.
Ciao.
Bye
à bientôt.
Bye. Et à la semaine prochaine. We'll be right back.